Chapitre 2. L'île Sainte-Catherine, qui est située près de la côte du Brésil et qui fait partie de la province du même nom, n'est pas grande, n'ayant que 2 lieues de large et 12 de long. Montagneuse, bien arrosée et couverte de bois, largement découpée, elle possède 2 rades magnifiques, dont l'une est large de 3 lieues, qui peuvent recevoir les plus grands vaisseaux. À l'entrée du goulet qui sépare Sainte-Catherine de la terre ferme, s'élève Nostra Senhora del Desterro, chef-lieu de la capitainerie et résidence du gouverneur. Sainte-Catherine, qui fut fréquentée depuis Magellan par presque tous les navires qui voulaient passer dans le Pacifique, n'appartenait pas depuis longtemps au Portugal. Frésier raconte qu'elle servit de refuge à quantité de vagabonds, véritables outlots. Ils y trouvaient toutes les ressources naturelles dont ils avaient besoin, à l'exception des vêtements, qu'ils se procuraient en échange de rafraîchissements, qu'ils fournissaient aux navires en relâche. C'est vers 1740 que le gouvernement portugais prit définitivement possession de cette île, qui ne lui appartenait jusque-là que de nom. La ville de Desterro, à l'époque où la Pérouse y arriva, avait plus de 3,000 habitants et 400 maisons. Mais toutes les familles étaient si chargées d'enfants qu'ils prévoyaient déjà un accroissement rapide et considérable de la population. Cette perspective n'avait rien de redoutable, vu l'abondance des ressources en fruits, légumes et grains qui poussaient presque sans culture. Ce qui faisait encore défaut, à cette époque, c'était les manufactures. Nulle industrie, aussi bien sur la côte que dans l'île, si bien que les habitants, réduits aux seules ressources naturelles, étaient pauvres et couverts d'habits en lambeaux. Ils rappelaient les premiers colons par leur aspect misérable. Si l'apparition des 2 navires français avait jeté dans le pays une assez vive terreur, dès que la Pérouse eut envoyé au gouverneur, Monsieur de Barreau, une des médailles qui avait été frappée à Paris, pour perpétuer le passage de l'expédition, celui-ci s'empressa de donner des ordres, pour faciliter le ravitaillement de nos frégates. Un certain nombre d'officiers étant allés le remercier de ses prévenances, il les retint à dîner, et leur fit le plus cordial accueil. La Pérouse, croyant ne rester que 6 ou 7 jours à Sainte-Catherine, n'avait pas fait descendre à terre ses horloges marines. Mais les vents du sud et les courants furent si violents qu'il ne put reprendre la mer que le 19 novembre. À très bon compte, il avait pu se procurer de la viande sur pied, des légumes et des fruits en abondance. Il n'y avait donc pas lieu de se préoccuper d'un léger retard qui ne pouvait que contribuer au maintien de la santé des équipages. De Sainte-Catherine, la Pérouse adressa au ministre de la Marine un assez long rapport sur son voyage, et à ce paquet furent jointes les lettres qu'officiers et matelots eurent permission d'écrire. Le commandant avait pris la précaution, avant de pénétrer dans des parages où les brumes et les orages sont très fréquents, de s'entendre avec le commandant de l'angle et de lui fixer des lieux de rendez-vous en cas de séparation. Il l'avait également informé que la saison étant trop avancée, il ne chercherait pas un passage au sud des terres de Sandwich, mais se bornerait à la recherche dans l'Atlantique de l'île grande du Français Antoine de la Roche, et à laquelle Cook avait donné le nom de Géorgie. 40 jours de navigation infructueuse, pendant lesquels il essuya 5 coups de vent, convainquirent la Pérouse que l'île grande était une terre fantastique. Si cet officier avait parfaitement raison, quand il taxait d'invraisemblance le rapport de la Roche, qui prétendait y avoir vu de grands arbres, alors que par 45 degrés, on ne peut trouver que des arbustes sur une île placée au milieu de l'océan méridional, il se trompait cependant en n'identifiant pas l'île de la Roche avec la Géorgie australe de Cook et avec la terre vue en 1756 par le navire espagnol Léon, qui lui donna le nom de San Pedro. L'île de la Géorgie du Sud est à 1800 km environ de la Terre de Feu, par 54,4 degrés de latitude sud, et par 40,35 degrés de longitude ouest, alors que la Pérouse l'avait cherchée entre 44 et 45 degrés de latitude, et par 34 degrés de longitude occidentale. Ceci explique qu'il ne l'avait pas rencontrée. Le 25 décembre, ayant dépassé le point assigné sur toutes les cartes à l'île Grande de la Roche, jugeant que la saison était très avancée, la Pérouse se détermina à ne plus faire que la route qui l'approcha le plus de l'ouest. Il eut la chance d'être favorisé par une saison exceptionnelle, les coups de vent ayant cessé avec le mois de décembre, et le mois de janvier ayant été presque aussi beau que l'est en Europe le mois de juillet. Nous eûmes, dit la Pérouse, quelques jours de calme et de belle mer pendant lesquels les officiers des deux frégates firent des parties de chasse en canot et tuèrent une quantité considérable d'oiseaux, dont nous étions presque toujours environnés. Ces chasses, assez ordinairement abondantes, procuraient des rafraîchissements en viande à nos équipages, et il nous est arrivé plusieurs fois d'en tuer une assez grande quantité pour en faire des distributions générales. Les matelots les préféraient à la viande salée, et je crois qu'elle contribuait infiniment davantage à les maintenir dans leur bonne santé. Nous ne tuâmes dans ces différentes excursions que des albatros de la grande et de la petite espèce, avec quatre variétés de pétrels. Ces oiseaux, écorchés et accommodés avec une sauce piquante, étaient à peu près aussi bons que les macreuses qu'on mange en Europe. Fermez les guillemets, il faut croire alors qu'ils étaient plus que médiocres, car la macreuse offre un goût d'huile rance forte écœurant, et, la Pérouse ayant soin de nous dire que ces pétrels étaient à peu près aussi bons que la macreuse, ils devaient constituer un mets très peu appétissant. Le 22 janvier 1786, fut relevé le cap des Vierges. La Pérouse, qui sut toujours rendre justice à ses devanciers, constata que la vue donnée dans le voyage d'Anson était très exacte et que sa position avait été très habilement relevée par Cook à son second voyage. Prolongeant la Terre de Feu, la Pérouse embouqua le détroit de Lemaire et, trouvant le temps on ne peut plus favorable, se détermina à doubler le cap Horn et à faire route pour l'île Juan Fernandez, où il devait trouver de l'eau et du bois, ainsi que quelques rafraîchissements bien supérieurs aux pingouins du détroit Point. La navigation dans le détroit de Lemaire fut marquée par divers incidents. Sur presque tous les caps, de grands feux furent allumés par les indigènes pour engager nos compatriotes à mouiller. Certes, la Pérouse y aurait trouvé de l'eau et du bois, un peu de gibier aussi, virgule bien moins toutefois qu'au port Noël. Mais la Terre de Feu, dit-il, a été si souvent visitée et décrite que je ne pouvais me flatter de rien ajouter à ce qui en avait été déjà dit. De nos jours, il est vrai que nous possédons des moyens d'information et des instruments de recherche bien autrement supérieurs à ce qu'on avait à la fin du XVIIIe siècle. Nos marins, envoyés à la Terre de Feu pour y observer le passage de Vénus, en ont rapporté des albums de photographies de type et de paysages, on ne peut plus curieux et intéressant. Que dis-je ? Ils y ont même chargé une de ces huttes primitives formées de troncs d'arbres non égarés, recouvertes de peau, et jusqu'aux morceaux de bois à demi consumés qui formaient le foyer, et, au moyen de moulages, ils nous ont représenté au musée du Trocadéro, un campement très véridique de ces misérables Fuégiens, qui n'ont pour nourriture que quelques mollusques et les grands cétacés, que les courants et les tempêtes jettent sur leurs côtes inhospitalières. Dans ce détroit de Lemaire s'ébattaient de nombreux troupeaux de baleines, on jugera facilement, par le peu de crainte, que leur causaient les frégates, qu'elles n'avaient jamais été inquiétées. Il n'en est plus de même aujourd'hui, les pêcheurs de San Francisco et de l'Australie ont fait une telle chasse à ces géants des mers, que ceux-ci ont dû se réfugier sous les glaces du pôle, et qu'il faut s'enfoncer beaucoup plus au sud pour trouver les endroits où ils se cachent. Une des raisons qui avait déterminé la Pérouse à ne pas relâcher à la baie de bon succès, c'est, outre la saison avancée, qu'il avait formé le dessein de se rendre à la côte nord-ouest de l'Amérique. Il savait en effet que, si ses instructions ne le lui prescrivaient pas, c'est qu'on craignait qu'il n'eût pas le temps d'exécuter ce long voyage avant l'hiver. Aussi l'appât d'une nouvelle route à fouler dans la mer du Sud, l'attrait de découverte à faire dans des mers inexplorées, tout l'engageait à modifier le plan du voyage, d'autant plus qu'il était libre d'exécuter les ordres qu'il avait reçus de la manière qu'il jugerait le plus profitable. Il ne pouvait cependant arrêter un parti que quand il aurait doublé le Cap Horn. Il le fit beaucoup plus facilement qu'il ne se l'imaginait. Le 9 février, il était dans la mer du Sud et par le travers du détroit de Magellan, et faisait route pour l'île Juan Fernandez. Il avait passé, sans l'apercevoir, sur l'emplacement de la terre que Drake aurait découverte en 1578. Il n'avait pas, d'ailleurs, consacré beaucoup de temps à sa recherche, persuadé que c'était la terre de feu, et vraisemblablement l'île de Diego Ramirez, qui est située à peu près, par la latitude de la prétendue terre de Drake. Mais, au XVIIIe siècle, alors qu'on faisait à la voile un voyage de la longueur de celui que la Pérouse venait d'accomplir, il fallait compter sur certains incidents qui sont devenus, en notre siècle de vapeur, des quantités négligeables. La Pérouse et de l'Angle, s'étant aperçus que les vers s'étaient mis dans leurs biscuits, et que déjà le cinquième de ce qu'ils avaient à bord avait disparu, jugèrent que Juan Fernandez était trop éloigné, et résolurent de s'arrêter à La Conception, ville située dans une partie du Chili, où les grains étaient abondants, et à très bon marché. Les deux frégates firent donc route pour cette localité et leur voyage ne fut marqué par aucun incident notable. C'est en vain, lorsqu'elles donnèrent dans la baie de La Conception qu'elles cherchèrent la ville qui devait se trouver, dans cette anfractuosité de la côte. Détruite en 1751 par un tremblement de terre, La Conception avait été reconstruite à 3 lieues de la mer, sur les bords du Biobío. La Pérouse avait été précédée dans cette ville par des lettres du ministre d'Espagne. Aussi, dès que les deux frégates avaient été signalées, un officier s'était-il détaché de la terre pour leur porter à Talcanaga les compliments du gouverneur. Bien qu'il eût paru tout surpris de ne trouver aucun malade à bord des deux bâtiments, il n'en avait pas moins fait porter de la viande fraîche, des légumes et des fruits. Provisions auxquelles les équipages, sevrés depuis si longtemps de ses douceurs, firent l'accueil qu'on peut imaginer. La baie de La Conception est une des plus commodes et des plus sûres du monde entier. Elle n'est ouverte qu'au vent du nord, qui ne souffle d'ailleurs que pendant la saison des pluies. Encore trouve-t-on un abri contre le nord-est au mouillage de Talcahuana. Comme nous l'avons dit, l'ancienne Conception avait été détruite par un tremblement de terre. Il était encore facile à cette époque de voir ces ruines, qui, dit la Pérouse, ne dureront pas autant que Palmyre, tous les bâtiments du pays n'étant construits qu'en torchis ou en briques cuites au soleil. Mauvaise raison, car elles sont nombreuses. Les villes de la vallée de l'Euphrate dont les palais construits avec la boue du fleuve ont été retrouvés, il y a une cinquantaine d'années, et nous ont livré tant de trésors artistiques, tant de précieuses informations sur l'histoire et la vie des Assyriens et des Perses. Après le désastre qui avait détruit leur ville, les habitants vécurent pendant plusieurs années, et parlaient camper sur les collines prochaines. Ce ne fut guère qu'en 1768, qu'ils arrêtèrent l'emplacement d'une nouvelle cité, et qu'ils y transportèrent l'évêché, la cathédrale et les couvents, monuments les plus sérieux dans un pays où la vie religieuse avait pris une telle importance, un tel ascendant. l'autorité du roi devait avoir aussi son représentant, et si le Chili avait un gouverneur général, la Conception eut son gouverneur particulier, et celui-ci son hôtel. Au sud du Biobío, sauf l'île de Chiloé, et les environs de Valdivia, tout le pays appartenait encore aux Indiens, Araucans, et autres, qu'il était difficile de faire passer pour sujet du roi d'Espagne. Malgré la fertilité d'un pays où le blé donnait 60 pour un, où la vigne produisait en abondance, où de gras pâturages nourrissaient d'innombrables troupeaux de bœufs, de chevaux et de moutons, la situation n'était rien moins que prospère. Comme le fait, à juste titre, remarquer la Pérouse, cet état de choses tenait au système prohibitif. Si le Chili avait eu le droit d'exporter ses cuirs et ses laines, sans nul doute, ils eussent immédiatement rencontré preneurs sur les marchés européens à des conditions rémunératrices. Mais les articles d'importation lui étaient fournis par la métropole, et il ne pouvait donner en échange que ses productions. Ajoutés au prix primitif du sucre, du tabac et des objets manufacturés nécessaires à sa consommation, les remises aux intermédiaires et les droits de douane payés à Cadix, à Lima et au Chili, et vous verrez le prix colossal que coûtait, à cette époque, le moindre objet d'importation. Il en résultait que la consommation était aussi restreinte que possible. De plus, on se gardait bien d'augmenter une production dont on ne pouvait se défaire, et qui, par sa surabondance, aurait encore amené un avilissement des prix. Le mal dont souffrait le Chili ne lui était pas particulier, il était général à toutes les colonies espagnoles. Bougainville, qui avait visité Buenos Aires et Montevideo, nous a laissé des renseignements qui concordent absolument avec ceux de la Pérouse. Une situation analogue avait engendré les mêmes maux, et le tableau que nous fait Bougainville de la Société de la Plata s'applique admirablement à celle du Chili, et inversement. La paresse, dit la Pérouse, bien plus que la crédulité et la superstition, a peuplé ce royaume de couvents de filles et d'hommes. Ceux-ci jouissent d'une beaucoup plus grande liberté que dans aucun autre pays, et le malheur de n'avoir rien à faire, de ne tenir à aucune famille, d'être célibataire par état, sans être séparé du monde, et de vivre retiré dans leurs cellules, les a rendus, et devait les rendre les plus mauvais sujets de l'Amérique. Le peuple de la Conception est très voleur, et les femmes y sont extrêmement complaisantes. C'est une race dégénérée, mêlée d'Indiens, mais les habitants du premier état, les vrais Espagnols, sont extrêmement polis et obligeants. Fermez les guillemets. Et la Pérouse se hâte d'en donner pour preuve l'accueil qu'il reçut des autorités et des principaux habitants de la ville. Invités à un bal, nos compatriotes constatèrent combien étaient jolies les dames du Chili, avec leurs jupes plissées, qui laissent à découvert la moitié de la jambe, leurs cheveux tressés tombant sur leurs épaules, leurs corsets d'étoffe d'or ou d'argent, recouverts de deux mantilles, l'une de mousseline, l'autre de laine. Cette dernière ne sert qu'au dehors, à envelopper la tête de ces charmantes créatures. Aux politesses du gouverneur général, M. Higuin, non sans doute défiguré, qui doit être au Higuin, du commandant de la Conception, M. Quexada, et des principaux habitants, il fallait répondre par quelques fêtes qui laissaient dans le pays le souvenir du goût et de la galanterie des Français. Sous une tente dressée au bord de la mer prirent place 150 personnes, hommes et femmes, dont quelques-uns n'avaient pas fait moins de 3 lieues, pour venir assister à ces agapes. Au repas succéda le bal, à celui-ci un feu d'artifice, et la fête se termina par l'enlèvement d'un assez grand ballot de papier. Mais les plaisirs et le charme d'une société aussi remplie d'aménités ne pouvaient faire oublier à la Pérouse l'objet de sa relâche. Les frégates réparées, les vivres, l'eau et le bois embarqueurs, les équipages furent lâchés à terre, sans qu'il s'ensuivît le moindre désordre, ni la plus petite atteinte à la santé des matelots. Le 15 mars, tout était pareil, mais les vents se fixèrent au nord, et il fallut encore attendre 2 jours pour trouver une légère brise du sud-ouest qui permit d'appareiller. Passant large de l'île Juan Fernandez, dont le commandant jugea inutile de prendre connaissance, sa position ayant été fixée par le père Feuillet, les 2 frégates arrivèrent, le 8, en vue de Wayne, ou île de Pâques, et s'efforcèrent, le lendemain matin, de gagner la baie de Cohoc, mouillage ouvert au seul vent d'ouest, et le temps était si beau, que la Pérouse espérait qu'il ne soufflerait pas de plusieurs jours. Pendant les différentes manœuvres nécessaires pour atteindre ce havre, les 2 frégates avaient été entourées d'insulaires, qui les suivaient à la nage, et, lorsqu'elles s'éloignèrent d'une lieue du rivage, cela n'empêcha pas ceux-ci de monter à bord, avec un visage riant, et une sécurité qui firent la plus favorable impression sur nos compatriotes. L'une des premières réflexions de la Pérouse, à la vue de ces indigènes, fut de constater combien étaient peu ressemblants les portraits qu'en avait donnés M. Hodge, le peintre qui avait accompagné Cohoc. Leur physionomie, assure la Pérouse, est généralement agréable, mais elle n'a point, comme celle des Malais, des Chinois, des Chiliens, un caractère qui lui soit propre. Ce ne devait pas être, d'ailleurs, le seul point sur lequel le voyageur français ne se trouverait pas d'accord avec Cohoc. Le lendemain, à la pointe du jour, la Pérouse disposa tout pour descendre à terre. Bien qu'il eût accablé de présent les insulaires qui étaient montés à bord, il connaissait trop le penchant invétéré de ces peuples pour ne pas prendre quelques dispositions contre leur tentative de vol. Il s'entoura, ainsi que le commandant de l'angle, d'un appareil guerrier. 70 personnes en armes, avec 4 canons, il y avait de quoi, pensait-il, imposer aux insulaires. 400 ou 500 naturels, fort peu couverts ou complètement nus, sans armes, attendaient les embarcations. La première impression de M. de la Pérouse, à peine eut-il touché terre, fut la ressemblance de Wayne avec l'île de France. Même dénudation, même absence de grands arbres, même formation volcanique. Cependant, il ne lui parut pas que les habitants fussent aussi malheureux que Cohoc et Forster l'avaient pensé. Les circonstances, d'ailleurs, n'étaient pas les mêmes. Cohoc débarquait après un long et pénible voyage, et ce qu'il lui fallait, avec ses nombreuses scorbutiques, c'était des vivres frais, de l'eau et du bois. L'île était incapable de lui fournir ce dont il avait un si pressant besoin, et cette pauvreté relative lui parut une effroyable détresse. La Pérouse, au contraire, avait pris au Chili pour plusieurs mois de provisions. Il n'avait, pour ainsi dire, besoin de rien. Loin d'avoir à demander des vivres naturels, il leur apportait des chèvres, des cochons, des semences d'arbres fruitiers et de graminées, qu'on pensait pouvoir se plaire sur ce sol volcanique. Malgré les précautions prises, il n'y eut pas un homme, pas même la Pérouse, qui n'eût son mouchoir ou son chapeau volé. Les ruses de ces sauvages, les subterfuges qu'ils employaient pour distraire leurs victimes, la joie qui se peignait sur leurs visages, quand ils avaient réussi à s'emparer de ce qu'ils convoitaient, aussi bien que les instructions pleines d'humanité que la Pérouse avait données à ses matelots, empêchèrent les choses de tourner au tragique. Comme nous devions partir dans la nuit, dit la Pérouse, et qu'un si court espace de temps ne nous permettait pas de nous occuper de leur éducation, nous prîmes le parti de nous amuser des ruses que ces insulaires employèrent pour nous voler. 2 détachements furent formés, l'un devait s'enfoncer le plus loin possible, semer des graines dans les terrains propices, examiner la nature du sol, les plantes qu'il porte et les naturels qui s'en nourrissent. L'autre devait visiter les monuments et les habitations dans un rayon d'une lieue autour des points de débarquement. Les statues gigantesques rencontrées par Kohok et ce qu'il en avait dit avait excité la curiosité générale. La Pérouse ne croit pas que ces statues, d'un art barbare et dans l'enfance, aient été l'œuvre d'un peuple beaucoup plus nombreux. D'ailleurs, elles ne sont pas d'une taille aussi gigantesque qu'on se le figurait, et, de plus, elles sont taillées dans le lapis-lazuli, pierre tendre et légère, si bien que leur érection n'a pas dû nécessiter des moyens mécaniques fort compliqués. Quant aux habitations, Monsieur de Langlan rencontra un grand nombre de souterraines, d'autres étaient formées de perches recouvertes de joncs très artistement arrangés, qui formaient une toiture imperméable. Enfin la Pérouse découvrit une construction très vaste, qui lui parut être une habitation commune à la population de tout un district. Il penchait d'ailleurs à croire que les produits du sol étaient mis en commun, et s'il n'osait déclarer qu'il en fut de même pour les femmes, il reconnaissait que, si elles étaient le bien particulier de chacun, leur mari en était fort prodigue. Mais toutes leurs agaceries furent en pure perte, et, malgré l'exemple que les indigènes leur donnaient, les Français ne voulurent pas user de facilité obtenue par contrainte. En somme, la Pérouse retrouva à l'île de Pâques les arts et l'industrie des îles de la société, mais avec beaucoup moins de facilité pour les exercer. C'est ainsi qu'il n'aperçut qu'un très petit nombre de pirogues, sans doute à cause du peu de bois qu'on y trouve. La côte étant peu poissonneuse, la nourriture des indigènes est presque exclusivement végétale, les plantations sont fort bien tenues, et les champs cultivés avec intelligence. D'ailleurs, ils parurent s'intéresser à tout ce qu'ils avaient vu de nouveau, mesurant le vaisseau, examinant les câbles, ancres, boussoles.